En ce 17 avril, c'est la fête de la bienheureuse Kateritekakwita, cette Amérindienne, cette merveilleuse jeune fille dont il faut lire la vie pour être complètement saisi par la merveille que Dieu a fait dans cette femme. Elle est morte à 24 ans, tout près de Montréal, à Kanawake. Son tombeau, qui est magnifique, qui est vénéré, dans cette très belle église, une des plus belles églises du Québec, qui est la paroisse des Amérindiens, des Mohawks, l'église Saint-François-Xavier, à Kanawake, qui a été construite il y a 152 ans. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il faut bien se rendre compte, souvent on l'oublie, que la France a vraiment accompli une œuvre extraordinaire au XVIIe siècle ici. On peut être fier de nos ancêtres. La France a envoyé ici, en Nouvelle-France, des laïcs, des religieux, des prêtres, très souvent exceptionnels. Il y aurait de quoi faire au moins 100 ou 200 émissions et même davantage. On peut dire que si, il faut bien le spécifier, que la France a été la première des nations déléguer des femmes apôtres en pays de mission. Ça s'était jamais fait avant. Des femmes à l'esprit apostolique, comme on dit, en pays de mission. C'était extraordinaire quand on pense à Marie de l'Incarnation, à Jeanne Mance, etc. Il y en a eu beaucoup. En Anjou, en France, dans la ville de La Flèche, Jérôme Leroyer de la Dauversière, dont je vous ai déjà parlé même en une émission et demie, a eu l'inspiration de fonder une ville sur l'île de Montréal. C'est lui qui a eu cette inspiration. Je vous le rappelle, je vous l'avais déjà dit. C'était pour la conversion des indigènes, c'est-à-dire dans le but de les christianiser, les arracher à toutes sortes de tabous et de choses souvent bien pénibles et bien dures, même s'il y avait de très beaux élans spirituels chez ces hommes. Et c'est au prix d'efforts inouïs qu'il est parvenu à fonder la ville de Montréal grâce à, comme chacun le sait, à Paul Chemédé de Maisonneuve. Montréal, donc fondé en 1642, on peut dire que ça a été la réalisation de son projet. Mais c'est surtout en 1667 quand sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent a été établie la mission Saint-François-Xavier. Cette église dont je vous parle, qui a été construite il y a 152 ans maintenant, il y en avait une autre avant, et c'est là que se sont réunis assez rapidement, à partir de 1667, des Indiens chrétiens de plusieurs peuplades. Oui, je dis bien de plusieurs peuplades, de plusieurs nations, si vous préférez. Et c'est là qu'est venu se fixer, à un moment donné, pas longtemps avant de mourir, la bienheureuse Kateritekakwita. Plus à l'est, depuis 1634, donc avant la fondation de Montréal, et l'établissement des Trois-Rivières sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec, il y avait là un fort qui permettait aux gens de se garder à l'abri que portaient à leur égard une espèce de haine iroquoise qui était soutenue par... Avec raison des fois, mais aussi on peut se demander jusqu'à quel point leur haine allait. Évidemment qu'ils voulaient peut-être défendre un territoire, mais c'était pourtant pas leur territoire à cette époque. Et depuis que Champlain avait pris fait et cause pour les Algonquins contre les Iroquois surtout, entre 1609 et 1616, on peut dire que c'est de là que venait la colère des Iroquois. Alors, les gens de Trois-Rivières, mais aussi toute la Nouvelle-France, on peut dire, a dû résister à la guerre de guérilla, qui était menée constamment contre elle et contre ses alliés indiens, parce que nos ancêtres avaient des alliés indiens, comme les Algonquins. Que de fois, derrière les fortifications, les Français, puis leurs alliés, leurs amis, ont tenu ferme contre cet ennemi. Et nos ancêtres avaient vraiment peur, comme les Algonquins d'ailleurs. Ils n'osaient pas s'aventurer hors de la palissade. Ils avaient peur de rencontrer quelqu'un qui vraiment les assassinerait d'un seul coup. C'était très rapide. Et pourtant, en 1653, c'est une trêve, c'est la paix. En 1653, 11 ans après la fondation de Montréal, hein, au cours de tout l'hiver, Algonquins et Iroquois vont ensemble à la chasse, même, à la chasse du gros puis du petit gibier. Et malgré la grande différence de leur langage, ils s'entendent fort bien. Et cette bonne entente va se prolonger jusqu'au printemps. Et à tel point que les Algonquins permettent à certains de leurs hôtes Iroquois de prendre femme chez eux à Trois-Rivières. Alors là, un chef Iroquois, certains disent qu'on ne connaît pas le nom, d'autres disent qu'il s'appelait Kenoronkroix, et bien qu'il était de la tribu de la tortue, celle des chefs qui venaient de l'État de New York, là. Aujourd'hui, il épouse une jeune Algonquine de 15 ou 16 ans environ, et cette adolescente avait vécu la meilleure partie de sa vie à Trois-Rivières, au poste français. Elle était une catholique convaincue, une chrétienne convaincue. On connaît pas son nom, dit-on, mais pourtant il y en a d'autres qui l'appellent Carenta. Alors il est temps pour le jeune chef Iroquois, là, de rentrer chez lui. Environ 350 000, plus au sud. Sa femme doit faire ses adieux aux siens et aux missionnaires qui l'ont si bien instruite à plusieurs points de vue. Alors elle prend place dans le canot de son mari. Elle a dû ressentir un grand serrement de cœur, hein, à la pensée que jamais plus, sans doute, elle ne reverrait le pays de son enfance. Alors les canots remontent le fleuve là, jusqu'à la rivière Richelieu, les conduisent vers le sud. Et de son regard, ben cette Algonquine, nouvellement mariée, contemple les rives bordées de conifères. J'espère que vous êtes déjà descendu ou remonté le fleuve, c'est très beau, hein, les conifères, les bouleaux blancs. On peut imaginer ce que ça devait être dans ce temps-là, quand on arrive dans les régions où il y a moins de maisons. Hein. Il y avait des érables, vert tendre, des ormes, c'est si beau. J'ai tout vu seul pour la première fois en 1949, c'était tellement beau ce fleuve Saint-Laurent. Alors chaque nuit, les Iroquois font escale, puis ils mangent, puis ils dorment à la Belle Étoile. Alors, 4 ou 5 jours plus tard, la rivière débouche dans le lac Champlain, parcours est dangereux, puis à un coin du lac où plusieurs ont péri dans le passé à cause du vent puis des vagues, là, ils s'arrêtent pour offrir du tabac en hommage aux Zotkon Siraxen, c'est-à-dire des êtres surhumains qui habitent, selon eux, les profondeurs des eaux. On rejoint certaines émissions qu'on entend sur le câble, où il y aurait dans les profondeurs de la terre des êtres qui vivent ici. On nous dit ça à la télévision, c'est incroyable. À son tour, là, le lac Champlain s'introduit dans une autre étendue d'eau nommée par les missionnaires d'autrefois, là, le lac du Saint-Sacrement. Mais après la conquête du pays par les Anglais, notre beau lac du Saint-Sacrement est devenu quoi? Le lac George. Quelle tristesse, hein? Alors, parvenus à cet endroit, les voyageurs se trouvent en pleine Iroquoisie, bien que leur village le soit à 2 journées de marche environ encore. Hein, le trajet a dû durer à peu près 2 semaines au total. Le pays iroquois était composé de 5 nations de même origine. L'une d'entre elles, c'était les Agniers. A-G-N-I-E-R-S. Alors, le mari de notre Algonquine, puis les autres hommes, appartenaient au premier des 3 villages, les Agniers, de cette époque. Et puis, c'est celui situé le plus à l'est. C'est là que, 7 ou 8 années auparavant, les saints martyrs canadiens Isaac Jogues, René Goupil et Jean de la Lande ont versé leur sang pour la foi. Les habitants du village avaient décidé de conserver la vie à ces missionnaires, mais malheureusement, quelques Iroquois insoumis, suffit d'une petite minorité, hein, les avaient tués. Il ne faut pas appliquer toujours à tout le monde le mal qui s'est fait par quelques-uns. Soyons, il faut comprendre aussi que s'ils ont fait ces gestes, il y avait peut-être aussi des raisons politiques ou des raisons religieuses. Ils voulaient préserver leur propre religion aussi. Il faut essayer de comprendre et ne pas détester jamais, jamais. Alors, leur village, Osernon, était le plus petit hameau de la nation. Il occupait une colline là, qui descendait doucement là, vers la rivière Mohawk. Ça fournissait un coup d'œil assez beau sur la vallée. De chaque côté de la palissade s'étendaient des champs de maïs, de courges et de haricots verts. Hein. Alors, notre Algonquine, jeune Algonquine, nouvellement mariée, comprend qu'il lui faudra bientôt travailler à la culture de la terre. Et les gens de sa race, comme les Atikameks, nomades du Saint-Maurice, ne vivaient que de chasse et de pêche. Et les cantons iroquois, au contraire, étaient sédentaires depuis des siècles, puis récoltaient des milliers de minots de légumes chaque année. L'habitation iroquoise aussi réserve des surprises à notre nouvelle venue. Elle est habituée au wigwam familial. C'était des cabanes très longues et larges qu'elle voyait, en forme de tonnel, où pouvaient habiter jusqu'à 20 familles, divisées en groupes de 4. Il y en avait deux de chaque côté de la cabane, qui participaient à un foyer commun, le placé au centre du long corridor, puis ainsi des autres groupes, et au-dessus de chaque feu était pratiquée dans le toit là, une ouverture. C'est là que sortait la fumée. C'est là qu'entrait la lumière. La cabane était plutôt en fumée et sombre. Alors on accueille l'étrangère à titre d'épouse du jeune chef. On l'accueille aimablement. Parce que la maltraitée, ben, ça attirait les foudres de ce guerrier. Et personne n'osait le faire fâcher. Les Iroquois avaient d'ailleurs l'habitude d'accepter assez facilement des étrangers dans leur rang, quand ils n'en faisaient pas des esclaves. À mesure qu'elle se familiarise avec la langue agnière, mais elle est fort différente de la langue algonquine, cette langue est tout aussi difficile. Chaque substantif imaginé avait plus de 150 formes qu'il fallait maîtriser. C'est pour vous indiquer comme ces langues étaient assez savantes. Alors elle se rend de mieux en mieux compte du rôle important que jouent les femmes dans leur milieu. Alors, sans doute, la femme du chef doit de temps à autre se réunir avec les autres Algonquines, qui, comme elle, ont choisi d'épouser des Iroquois. Alors, elles peuvent s'entretenir non seulement de leur pays d'origine, de leurs parents, de leurs amis, qu'elles ne reverront plus, mais elles parlent de leur foi commune en Jésus-Christ. Alors, la nouvelle épouse peut se filier d'amitié avec un certain nombre de Hurons baptisés, puis qui sont intégrés dans le clan de la tortue, celui de Cernenon, chez les Agniers. Petit à petit, d'ailleurs, elle est aidée par l'amour de son mari, et puis elle devient une bonne Iroquoise. Et moins de 2 ans après son arrivée, elle donne naissance, voilà, à une jolie fillette, c'est Kateri. 1 an ou 2 après, un petit frère vient prendre place à côté de l'aîné. Alors le jeune foyer est heureux, et la petite Kateri est fort jolie, avec de grands yeux noirs, des cheveux de jais, des cheveux bien noirs. Elle grandit rapidement, on la voit trottiner à la suite de sa mère, elle joue. À peine 4 ans, elle essaie de se rendre utile. Elle cueille des fraises sauvages, des framboises, des myrtilles, qu'on appelle les bleuets. Et jour après jour, depuis sa naissance, vient la mère prie pour eux. Parfois même, elle leur chante tout doucement des cantiques qu'elle a appris aux Trois-Rivières. Chaque soir, sans trop que personne s'en rende compte, elle leur fait faire un signe de croix. Elle les a pas baptisés, parce que, d'ailleurs, aucune captive chrétienne huronne ou algonquine n'oserait baptiser son propre enfant. Tout ça, c'est le rôle des robes noires, comme on disait, les robes noires, les jésuites, qui portaient les grandes soutanes noires. Et aucun missionnaire n'est passé dans ce village depuis 2 ans. En 1660, le malheur s'abat sur cette bourgade. C'est la petite Vérole, la mère, les 2 enfants et aussi le père en sont atteints. Oh, ça continue ses ravages et toute la famille succombe, sauf la petite Kateri. Elle revient lentement à la vie normale. Son visage est criblé des marques de la maladie, puis ses yeux sont affaiblis à tel point qu'elle doit toujours se protéger du soleil, hein. Les rayons du soleil sur la rivière ou sur la neige, ça la blesse terriblement. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, cette pauvre Kateri? Une agnière soumise aux lois puis aux superstitions de cette nation? Est-ce qu'elle va connaître le christianisme? Pour le moment, son oncle l'accueille et puis la remet entre les mains de ses tantes. C'est la coutume iroquoise. Et on peut dire que chez ces peuples, que souvent on appelle barbares, ça veut dire étrangers en fait, souvent les orphelins sont bien mieux traités que dans les nations dites civilisées comme la nôtre. Moi j'en ai adopté un pauvre enfant qui était abandonné dans la rue. Comme l'épidémie a emporté 1/3 des gens de Cernenon, bien, il y a plusieurs de ces enfants qui sont adoptés de cette façon. Et ces nouveaux parents sont déjà au courant de l'affaiblissement de ses yeux. Et vous verrez comment elle va finalement voir la vraie vie spirituelle. Les yeux étaient très affectés à notre bienheureuse Catrite Kakuita de son jeune âge. Et puis, ils espéraient, les parents, que petit à petit sa vue va devenir normale. À l'intérieur de la longue cabane iroquoise dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben, elle n'a pas de difficulté, elle peut se promener là, parce qu'il y a toujours un peu de lumière qui passe là-dedans, hein. Mais dès qu'elle sort, s'il fait bien clair, elle s'avance en tâtonnant. Alors on finit par la nommer celle qui s'avance en tâtonnant. Puis en iroquois, c'est quoi? Ben, c'est Tekakwita, c'est ça que ça veut dire. Et plus tard, c'est très nombreux biographes, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sa vie, hein. C'est surprenant, plus de 50. Alors, en constatant sa puissance d'intercession, ils ont transformé son nom de Tekakwita en celle qui meut tout devant elle, parce qu'elle a fait de nombreux miracles. Il faut lire les ouvrages sérieux, en particulier du père Henri Béchard, jésuite. Il avait publié chez Fides en 1980 l'héroïque indienne Kateri Tekakwita, et ça a été repris. Mon Dieu, je crois que c'est chez Bellarmine, si je me souviens bien. Je vais vérifier. Au centre Kateri Kanawake à Québec, c'est-à-dire dans le Québec. Alors, c'est un livre très, très, très intéressant qui est paru il y a à peine quelques années. Il y a aussi Rachel Jodoin, L'astre dans la nuit, Kateri Tekakwita. Puis le plus vieux livre, bien, c'est celui du Père Lecomte, là, qui est paru il y a très longtemps, dans une reliure rouge, c'est introuvable. Alors donc, il y a beaucoup de sources, il y a surtout la revue Kateri, publiée à Kanawake, où il y aura d'ailleurs, je vous le signale tout de suite, où il y aura dimanche prochain, le 17 avril, à 11h, au sanctuaire, dans la magnifique église, une grande fête, on célébrera Kateri Tekakwita. Alors, comme Kateri Tekakwita est fort intelligente, elle est habile de ses mains, elle est docile et gaie, bien les tantes se disent qu'elle fera plus tard une bonne épouse. Son nouveau mari, le chef, pourrait devenir alors membre de la famille, et tous profiteraient de sa chasse et de sa pêche, parce qu'ils veulent la faire marier à un jeune chef. Et puis, pourrait s'occuper de son frère. Mais il est encore très jeune, les tantes l'encouragent à se faire assez coquette. Les tantes de Tekakwita veulent voir leur nièce qu'elle fasse comme n'importe quelle fillette, et puis qu'elle se laisse faire, se laisse arranger, comme on dit. Et puis, elle a même, paraît-il, aimé cela un peu au début. Mais plus tard, elle va regretter amèrement ses petits mouvements de vanité. Elle n'a pas d'autre faute à se reprocher. C'est une jeune chrétienne exemplaire, étonnante. Les gens n'aiment pas ça, mais c'est comme ça. Une coutume qui nous paraît étrange était alors courante chez les Iroquois. On fiançait les fillettes aux garçonnets du même âge. C'était un moyen de resserrer l'amitié là, entre les familles. C'est un peu comme les fiançailles royales hein, qui se faisaient en Europe au XVIIe siècle. Puis un beau jour, alors que la petite, âgée de 8 ans, était vêtue de jolis vêtements, puis elle était bien arrangée, là. On a fait comme si on la mariait, ou on l'a mariée vraiment, à un petit garçon. C'était considéré comme un mariage chez les Amérindiens. Et ce fut une occasion de réjouissance chez les deux familles. La cérémonie, par exemple, n'a pas impressionné vraiment les deux enfants. Ils avaient plutôt le goût de jouer. Alors, ils avaient tous les deux bons caractères, se sont soumis à cela, paraît-il, sans s'en faire. Mais jusqu'alors, là, les Agniers, c'est que cette branche des Iroquois, où était Kateri Tekakwita, avait le monopole de la traite des fourrures, qu'ils faisaient passer chez leurs voisins d'Orange, aujourd'hui Albany, capitale de l'État de New York. C'est des Hollandais. À leur grand mécontentement, ils ont appris que les Onontagués, une autre branche des Iroquois, ont invité quelques jésuites français à séjourner dans leur canton, où se trouve le cœur des 5 nations iroquoises. Alors les Agniers, dans leur village, comprennent aussitôt que leurs alliés ne sont pas intéressés au christianisme et qu'ils veulent commercer avec les Français, tout simplement. Alors ils cherchent alors à faire renvoyer les jésuites, puis ils finissent par l'emporter. Et là, la paix entre les Iroquois et les Français est rompue. Et pendant plusieurs années, les Iroquois ont mis à feu et à sang la colonie française, que nous avions établi de peine et de misère, surtout pour évangéliser et soigner les diverses nations amérindiennes. En 1663, le nouveau régime, ici en Nouvelle-France, ça commence. Un nouveau régime. Et puis, le Canada devient une province de France. Le gouvernement royal prend la place des Cent Associés. C'est un groupement de trafiquants qui, jusque-là, avait plus ou moins bien géré le pays. Deux ans plus tard, en 1665, débarque à Québec le nouveau gouverneur, M. de Courcelles. 1665, l'intendant Talon, puis le marquis de Tracy l'accompagnent, lieutenant général des armées du roi, à la tête du régiment de Carignan-Salière, composé de 12 à 1300 soldats d'élite. On y compte là-dedans beaucoup, beaucoup de nos ancêtres. Mon ancêtre, Jean Beaugrand-Champagne, était là, un de ses soldats. Il a fondé Berthier, avec d'autres. La première tâche qui s'impose aux représentants du roi, c'est de mater les Iroquois récalcitrants. Et en janvier 1666, M. de Courcelles, qui ne connaissait pas l'hiver canadien, lui a voulu attaquer l'ennemi chez lui, vers le sud. À cette époque de l'année, c'était une imprudence épouvantable. Ils ont marché dans le froid, c'était effrayant. Puis il est revenu bredouille, sans même avoir aperçu la palissade des Agniers. À l'automne de la même année, M. de Tracy quitte Québec, suivi de 600 hommes du régiment de Carignan. J'espère que mon ancêtre n'était pas là. Après presque 4 semaines de marche, ils ont atteint la première bourgade du canton Iroquois, et ce n'était plus Osernénone, là, qui avait fait venir des prêtres, ni qu'on avait délaissé après l'épidémie de variole pour déménager 1 mille plus haut sur la rivière Mohawk. Le village s'appelait maintenant Gandawaki, eau rapide, ça veut dire. Et les habitants s'étaient enfuis. Pour marquer la possession au nom du roi de France, le marquis de Tracy y plante une croix, il fait célébrer la Sainte Messe, il fait chanter un Te Deum. Ensuite, il brûle, imaginez, les 3 villages. Il détruit les provisions de maïs que ces Amérindiens ont, puis d'autres légumes là, que les Agniers ont récoltés pour l'hiver. Alors Kateri Tekakwitha est alors âgée de 10 ans. Elle doit suivre la tribu dans la grande forêt où se passe tout l'hiver. La population est bien éprouvée, mais surtout les vieillards et les malades, et en particulier cette pauvre petite fille qui a les yeux très, très handicapés. Et du point de vue français, puis des Indiens liés aux Français, l'expédition aurait été un succès, trouve-t-il. Et d'ailleurs, chose étrange, les Iroquois eux-mêmes ne trouvent pas à redire du procédé du marquis de Tracy qui a brûlé puis qui a fait des choses épouvantables. Pourquoi? Parce qu'ils agissaient de la même façon quand ils remportaient la victoire sur leurs voisins. Par exemple, quand ils ont vaincu les Éryers en 1656. Alors, ils demandent la paix, et comme preuve de leur sincérité, ils demandent aussi des missionnaires. C'est étrange, il y a une espèce de noblesse dans cette capacité de cruauté de nos ancêtres et des Iroquois. Hein. C'est un autre monde. Alors c'est ainsi qu'ils ont voulu, selon leur expression, là, enterrer la hache de guerre. Et cette paix va durer 18 ans. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui arrive à Tekakwitha, notre petite? Mais à la fin de cet hiver pénible dans les bois, là, les Agniers, elle était avec eux, décident d'établir leur pénate sur la rive nord de la rivière Mohawk, un peu plus vers l'ouest, au confluent de la Mohawk et du ruisseau Cayudetta, pour ceux qui connaissent ça, endroit auquel ils donnent le nom de Kanawake. Bien oui, c'était là Kanawake au début. Et c'est ce nom qui va être plus tard donné à la mission Saint-François-Xavier près de Montréal, sur la rive sud. 3 missionnaires jésuites, les pères Cholonec, Bruyas et Pierron, accompagnés de chefs Agniers, qui étaient allés à Québec pour traiter de la paix, sont parvenus au village au cours de l'été 1667, puis on ne les conduit pas aussitôt au chef-lieu du canton Agnier, mais à Kanawake, ce Kanawake-là. Hein. Alors les Iroquois de cet endroit se sont procurés des boissons alcooliques chez les Hollandais d'Orange, ou Orange, si vous voulez. Et presque tous les adultes voir les enfants, sont perdus dans les brumes de l'ivresse, qu'on croit prudent de retenir les trois pères pendant quelques jours à Kanawake. Et on verra la suite tout à l'heure. Il est question aujourd'hui de la bienheureuse Catrite et Kakuita, une Anière, une Iroquoise, une Mohawk, si vous voulez, qui sera vraisemblablement canonisée bientôt. Elle est morte à 24 ans. Alors, les trois pères jésuites passent quelques jours et aident Kateri dans sa dimension spirituelle. Et on offre la cabane de Kateri Tekakwita comme logement aux trois missionnaires. C'est une délicatesse de Providence. Et le père Cholonek a écrit à son sujet sa modestie et la douceur avec laquelle elle s'est acquittée de cette fonction ont touché les nouveaux hôtes. Elle, de son côté, a été frappée de leur manière affable, de leur assiduité à la prière et des autres exercices dont ils partageaient la journée. Alors Dieu la dispose ainsi à la grâce du baptême. Qu'elle aurait demandé si les missionnaires eussent fait un plus long séjour dans son village. Pendant tout ce temps, Tekakwita grandit et à cause de ses mauvais yeux, se trouve la plupart du temps l'écart des autres jeunes filles. Elle s'occupe des travaux domestiques de la cabane. Elle moule le maïs entre deux pierres. C'est un mets très apprécié des Amérindiens. Puis elle prépare la soupe. Elle sert l'unique repas du jour dans la matinée. Après quoi, elle dépose les restes dans une espèce de chaudron près du feu où chacun peut se servir, au cours de l'après-midi et du soir, au gré de son appétit. Elle fait toutes sortes d'autres travaux, et ses tantes se réjouissent de ses talents. Elles étaient sûres maintenant que leur nièce ferait une bonne épouse. Et chez les Iroquois, les maîtresses de cabane choisissaient dans ce temps-là les époux pour leurs filles ou petites filles. Il n'était pas question d'amour. Mais dans le silence puis le travail, il semble bien que Dieu opérait au plus profond de l'âme de Kateri. Comme de rares Iroquoises auparavant, elle se sentait attirée par le célibat. Ça arrivait de temps en temps, ça. Et à peine parvenue à l'âge où elle aurait pu se marier, elle avait déjà la nette impression qu'elle ne devait pas se marier. Cela a suscité de violents heurts de la part des siens. Au printemps de 1675, le père Jacques de Lambreville remplace le père Boniface là-bas. Et puis, il se rend compte de ce qui se passe. Son oncle déteste le christianisme. Alors, à l'automne, alors que la plupart des Indiens s'abstiennent pendant le jour, occupés soit aux récoltes, soit à la pêche, soit à la chasse, ce missionnaire visite les malades et les vieillards qui ne peuvent pas s'éloigner de chez eux. Puis, en passant devant la longue maison de la jeune Catrite et Kakuita, il hésite. Et sans trop savoir pourquoi, il bouscule la porte d'écorce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est étrange, quand ses yeux se sont habitués là, à la pénombre, il voit une jeune Indienne assise auprès du feu, à demi-éteint, c'était Tekakwita, qui s'est blessé un pied au travail et ne peut marcher. Alors le père lui adresse la parole et depuis longtemps, elle désirait lui parler. Et avant la fin de la conversation, elle lui a demandé le baptême. Alors les missionnaires de la Nouvelle-France éprouvaient les adultes qui voulaient se faire chrétiens. Ils ont écrit, il faut y procéder au baptême avec un grand discernement de peur de faire plus d'apostats que de chrétiens. C'était leur point de vue. Alors elle suit les instructions. Le jésuite s'aperçoit bientôt que l'Esprit Saint a favorisé cette jeune femme de grâce exceptionnelle. Alors il lui révèle les richesses de la vie chrétienne, beaucoup plus en détail. Mais l'oncle, qui semblait irréductible, permet à sa nièce de se joindre aux vrais hommes qui font le signe de la croix, ce sont les chrétiens, ils les appellent comme ça dans leur langue, aux vrais hommes qui font le signe de la croix, à condition de ne pas quitter le village. Et le missionnaire, comme il le faisait pour tous les gens qui voulaient devenir chrétiens, il se renseigne sur la conduite de Kateri Tekakwita. Et pendant sa petite enquête, il passe de surprise en surprise. C'est le père Cholonek qui écrit, malgré le penchant que les naturels du pays, les Indiens, ont à médire surtout sur les personnes du sexe, les femmes, il ne s'en trouva aucun qui ne fît l'éloge de la jeune catéchumène. Ceux même qui l'avaient persécuté le plus vivement ne purent s'empêcher de rendre témoignage de sa vertu. Alors tous les chrétiens jubilaient de ce que le missionnaire allait enfin baptiser, et elle-même, en apprenant le jour qu'il avait indiqué ce merveilleux événement, elle était folle de joie. Elle avait mémorisé très exactement toutes ses prières. Et puis le père avait choisi le matin de Pâques, le 18 avril 1676. Et ça s'est fait à la petite chapelle de Saint-Pierre. Il lui donne le nom de Catherine, ou Catherie, ou Catherie, en Iroquois, en l'honneur de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Il baptise deux autres personnes en même temps. Dans la suite, le père de Lamberville, celui qui l'a baptisé, a pu écrire que la jeune convertie de 19 ans ne s'était jamais relâchée de sa première ferveur, même si elle avait rencontré des épreuves cruelles, de toutes sortes. Après une accalmie d'un mois ou deux, la persécution contre elle a commencé. Comme chrétienne, elle s'abstient le dimanche de travailler au champ, alors on la traite de paresseuse. Elle serait bien aujourd'hui, on peut travailler le dimanche, il n'y a plus de problème. On lui refuse toute nourriture ce jour-là. Les adultes et les enfants la montrent du doigt. Par dérision, ils l'appellent la chrétienne. Il paraît que ça se fait dans des écoles, aujourd'hui. Quand elle se rend à la chapelle, on la poursuit à coups de pierre. Un jour, alors qu'elle s'était retirée dans sa cabane, raconte le père Cholonic, un jeune homme y entrait brusquement. Et les yeux étincelants de colère et la hache à la main, il la lève pour la frapper, mais Catherine se contente de baisser modestement la tête, sans faire paraître le moindre émotion. Cet agresseur est absolument surpris. Il s'enfuit aussitôt. Sa famille la persécute aussi. Une de ses tantes, l'épouse de son vieil oncle, l'accuse d'une liaison criminelle avec son vieil oncle, imaginez. C'est parce que par inadvertance, elle l'avait interpellé par son nom propre plutôt que celui de père. C'est une calomnie qui l'a fait bien souffrir. Ses persécutions se prolongent pendant un an et demi. Sa vie est devenue insupportable. Il y a aussi la rage d'alcool qui est achetée chez les Hollandais, qui s'est emparée des hommes là-bas. L'alcool. Devant cette souffrance, le père conseille à Catherine d'aller vivre à la mission Saint-François-Xavier sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent face à Montréal. C'était à 200 000 environ plus au nord. Alors l'occasion de s'évader ne se présente pas avant l'automne de 1677. Mais pendant l'été, une jeune femme de la mission canadienne pense souvent à Catherine. Elle a naguère habité la même cabane qu'elle. Elle a été élevée comme sa sœur, puis comme deux sœurs. Cette Iroquoise encourage son mari à rentrer au canton Agné, dans le sud, là, chercher sa belle-sœur, c'est-à-dire Catherine Tekakwitha. C'est ce qu'il fait en compagnie d'un Indien nommé Poudre Chaude et d'un Huron, tous deux chrétiens comme lui. Dès leur arrivée, ils apprennent que le vieil oncle était absent, qu'il était allé faire de la traite probablement pour avoir de l'alcool à Fort Orange. Alors, c'est une merveilleuse occasion, le père de Lamberville donne une lettre à Catherine adressée au père Jacques Frémin, supérieur de la mission Saint-François-Xavier. Il écrit « Je vous envoie un trésor, gardez-le bien ». Alors Poudre Chaude, qui va prêcher chez ses compatriotes Oneyout, cède la place dans le canot à Catherine Tekakwitha. Puis avec son quasi-beau-frère et le Huron, elle prend la route du nord, puis de retour à son village. L'oncle, mis au courant de l'évasion, court aussitôt dans la forêt pour la rejoindre, mais il ne réussit pas à atteindre Catherine Tekakwitha, heureusement. Alors c'est une joie énorme de parvenir ici, de l'autre côté du fleuve, ce qu'on appelle Kanawake aujourd'hui, Caughnawaga autrefois. Et là, elle retrouve des Indiens qui prient. Quelle joie! La grande ferveur de ces chrétiens convertis fait chaud au cœur de la jeune femme. Alors l'accueil de sa quasi-sœur, puis de Anastasie Tegonmwasungo, maîtresse de la cabane et amie de sa mère, lui fait comprendre qu'elle n'est pas une étrangère et qu'elle est bel et bien chez elle. Alors, elle y est traitée avec grand joie. On l'admet à la première communion. Son directeur, dès qu'il a vraiment fait connaissance avec la nouvelle venue, a jugé opportun de lui permettre de recevoir Jésus le jour de Noël 1677. Il y a un écrivain américain qui explique très bien la signification de cette communion. Il écrit « Il faut reconnaître que les Iroquois, c'est très beau ce qu'il écrit au sujet des Iroquois et de l'Eucharistie, ou des Mohawks et de l'Eucharistie. Il faut reconnaître que les Iroquois avaient toujours eu un désir tout particulier de la Sainte Communion. Les mythes dont ils s'étaient nourris prouvaient qu'ils avaient une véritable faim de l'Eucharistie. Ils n'avaient jamais renoncé à s'élever au-dessus d'eux-mêmes par une sorte de communion à toutes les souffrances. Et voici que la possibilité leur était offerte de s'unir aux souffrances du Christ. D'autre part, les Iroquois avaient toujours été comme tourmentés par le désir de se lier en un seul corps qui fut plus que la somme de tous les Iroquois pris séparément. Comme la plupart des grands conquérants, ce qu'ils cherchaient à atteindre par leurs guerres incessantes, c'était une paix dont ils jouiraient dans l'unité d'une longue maison qui serait la longue maison. L'union à Dieu, à la gloire des saints, l'union à l'héroïsme et aux faiblesses de l'Église militante, dont le sacrement de la Sainte Eucharistie était le moyen, ah voilà, c'était la réalité même pour laquelle ils avaient fait toute leur guerre. C'était la substance de leur rêve. On voit qu'il comprend bien l'âme de nos frères amérindiens. Il faut les comprendre comme de l'intérieur. C'est pas facile. Alors tout cela, bien qu'Athéry le ressentait plus ou moins clairement, mais c'était assez pour l'inciter à se préparer le mieux possible. Sa devise était « Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse ?» Elle va garder cette devise jusqu'à sa mort. Sa prière était beaucoup plus intérieure qu'extérieure, ce n'était qu'un élan d'amour ininterrompu. Pourtant, les missionnaires nous affirment que sa dévotion n'était pas une preuve de paresse. Elle se noyait pas en dévotion, là, assise dans un coin. Elle n'était pas de ces espèces de dévotes entêtées, comme écrit le père Henri Béchard, qui est maintenant décédé, ce jésuite, qui était responsable de la communauté chrétienne de Caughnawaga dans le temps, de Kanawake aujourd'hui. Il dit des dévotes entêtés qui sont à l'église lorsqu'il faut faire à la maison le ménage. À la fin de chaque semaine, aussi bien remplie, Kateri Tekakwita s'examinait soigneusement la conscience, elle faisait pénitence de ses manquements, puis elle se confessait. Quand est venu le moment pour elle de s'approcher de la Sainte Table, le jour de Noël 1677, Kateri Tekakwita n'était pas simplement une petite iroquoise d'une exquise pureté, non. Ce jour-là, elle réalisait la destinée de sa race, de son peuple, de sa nation. À partir de ce jour, elle avançait à pas de géant dans la voie de la sainteté. Et cela, même sans s'en douter. La croix, ça a toujours été l'apanage de ceux qui veulent suivre le Christ. Elle n'a pas été épargnée. Elle a beaucoup souffert. Elle a dû parcourir parfois dans la neige avec des raquettes, faire des voyages difficiles malgré ses souffrances. Le plus discrètement possible, elle jeûnait au milieu de l'abondance. C'est pendant ces mois de chasse qu'un événement imprévisible est arrivé, un événement qui a fait souffrir Catherine intensément. Un soir, un homme de sa bande qui avait couru l'orignal toute la journée rentre à la cabane fort tard et bien fatigué. Sans boire ni manger, il se jette sur la première paillasse qu'il trouve et s'endort. Mais le lendemain, la femme de cet homme croit qu'ils ont couché ensemble. Et c'était un drame qui a finalement été calmé petit à petit. Le dimanche des Rameaux, là, tous les chasseurs rentrent au village, et Catherine avec eux. Elle peut communier une seconde fois le dimanche de Pâques, et peu après, on l'accepte comme membre de l'Association de la Sainte Famille, dont seulement les fidèles les plus fervents et les plus apostoliques font partie. Et peu après, le père Frémin, qui dirige la communauté, là, une communauté chrétienne, l'a fait venir chez lui et lui raconte qu'elle est dans un pétrin avec la femme du chasseur, mais il la croit sur parole quand elle raconte tout ce qui s'est passé. Et puis il obtient finalement la paix. Conquête anglaise, quoi. Alors, Kateri Tekakwita est soumise à d'autres épreuves. Sa sœur adoptive, là, que celle qu'elle considère comme sa sœur, qui l'aime beaucoup, mais qui s'inquiète à son sujet, lui propose d'épouser un bon chasseur. Un chasseur qui pourrait l'aider à vivre, et à se procurer des vêtements, ils auraient des enfants. Alors, la seule fois que Catherine a visité Montréal, elle était allée à l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu dirigé par les hospitalières de Saint-Joseph et fondé par Jérôme Leroyer de la Dauversière grâce aux aumônes de ses amis. Et pour la première fois, elle y voit quelque chose d'extraordinaire, des femmes qui ont fait vœu de chasteté afin de mieux se consacrer à Dieu. Alors elle se sent portée à une vocation comme celle-là. Sa sœur, qui n'arrive pas à l'ébranler dans sa décision, réussit à convaincre la vieille Anastasie Tegong-Watsiongo que la bonne Catherine fait fausse route. À son tour, Anastasie veut imposer son point de vue à la jeune Catherine, qui lui est ordinairement bien soumise. Et Catherine est vive, elle a de l'esprit. Et le sujet est trop sérieux pour badiner. Elle n'a pas l'intention de baptiser. Elle dit même, dans un élan un peu de révolte, elle parle un peu sèchement à cette bonne vieille qui est veuve. Elle lui dit, « Si vous estimez tellement le mariage, eh bien mariez-vous, votre veuve. Quant à moi, tout ce que je désire, c'est la paix. » Oh! Alors, Anastasie est bien mécontente et elle décide d'en parler au père Cholonec. Catherine l'a même devancée parce qu'elle est allée se confesser probablement. Et puis, elle a insisté auprès du jésuite pour qu'il l'approuve et qu'il se range de son côté. Avec son amie intime, Marie-Thérèse Tegayagenda, et une huronne nommée Scarikions, Catherine avait voulu fonder un monastère de religieuses indiennes à l'île au Héron dans le Saint-Laurent. Le père Frémin lui objecte son peu d'expérience de la vie chrétienne. Eh bien, savez-vous qu'il y a une Agnière, donc de la même, du même peuple, Sandra Atta Mastari, qui vit actuellement, et c'est dans le dernier numéro de la revue Catherine, numéro 148, du printemps 1997, qu'on peut lire en deux pages, qu'elle a fondé une communauté dédiée à la bienheureuse Catherine Tecacuita. Elle écrit à un moment donné, « Je suis arrivé au Nicaragua, il y a 9 mois, sans savoir parler l'espagnol, mais avec la foi que Dieu voulait que je commence une nouvelle communauté dans ce village de Muy Muy, M-U-Y, M majuscule U-Y encore, 2 fois, au Nicaragua. Elle dit, comme je suis une Agnière, une Mohawk, sans documents, etc., elle a eu des difficultés, elle dit, j'ai maintenant 37 candidates pour mon noviciat. En quelques mois, hein, nous avons déjà 341 enfants d'enrôlés et 320 autres attendent leurs admissions. 68 personnes âgées profitent aussi de notre programme. Elle dit, je suis aussi à ouvrir une maternelle catholique, mes religieuses enseigneront à cette école et iront comme catéchistes dans les 15 missions. Elle dit, installer dans notre nouvelle maison, ce sera plus facile, etc., etc. C'est superbe. Eh bien, c'est fait, la communauté fondée. Alors, Catherine aurait bien voulu fonder ça. Alors, l'année qui lui reste à vivre à cette pauvre Catherine de Tecacuita se passe dans un dévouement extraordinaire envers les pauvres. Elle n'est pas célibataire ou vierge simplement pour comme ça. Non, c'est pour se dévouer envers les pauvres, les malades, les personnes âgées, et dans toutes sortes de pénitences aussi. Elle disait son chapelet en marchant pieds nus dans la neige. Faut comprendre la mentalité de l'époque, toujours. Hein. C'est pas facile de se mettre dans la mentalité de cette époque. Même elle mettait des épines sous les draps de son lit, afin de souffrir toute la nuit pour la conversion de son peuple. Mais ça abîmait sa santé. Elle s'est fait reprocher ça par sa quasi-sœur. Hein. Ainsi, le feu de l'amour divin, on peut dire, a consumé rapidement la vie de Catherine. Tout le monde en a été édifié. On s'édifiait beaucoup des excès dans ce temps-là. Malgré les efforts du père Cholonec pour vraiment la calmer un peu dans ses austérités, cette pauvre Catherine est bientôt au bord de la tombe. L'hiver arrivé, elle est prise d'une toux violente qui lui déchire la poitrine. Les maux de tête, la fièvre l'accable. Mais ces jours d'agonie, elle les passe à prier, puis à parler au grand esprit, à parler du grand esprit, à tous ceux qui veulent l'écouter. Ils sont nombreux. Car tous les gens là-bas, à Kanawake, de l'autre côté du fleuve, ici, là, sur la rive sud, ils ont bénéficié de sa charité. Le mardi saint, on lui apporte le saint viatique, c'est-à-dire la communion, si vous voulez. Viatique, c'est la communion dans le sens que Jésus nous accompagne dans ce long voyage qui est le voyage au-delà de ce qu'on appelle la mort, c'est-à-dire le voyage dans la vraie vie, l'autre vie. Ne tombons pas dans les excès des sectes qui se suicident pour aller de l'autre côté. Le lendemain 17 avril, c'est l'anniversaire, 1680 est entouré de tout le village. Après avoir prononcé des paroles comme « Jésus, Marie, je vous aime », eh bien, elle va voir Jésus, celui qu'elle aime, celui auquel elle a consacré toute son existence. Un jour, j'étais en retraite chez les Carmes, à Avon, au bout du grand parc du château de Fontainebleau. Il y avait là une femme dans la chapelle toute seule qui se balançait un peu sur son siège et qui n'arrêtait pas de dire « Jésus, Marie, mon amour. Jésus, Marie, mon amour. » Je l'ai écoutée pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans faire de bruit. J'ai pas osé rentrer dans la chapelle. Je l'ai laissée toute seule. Alors, au même moment où elle meurt, se produit un premier miracle. Kateri Tekakwitha paraît transfigurée, et son visage, sur lequel on a toujours vu les marques laissées par la petite vérole, devient lisse et d'une beauté étonnante, comme si une lumière en émanait. C'était le reflet de la beauté de son âme. Et son culte s'est propagé rapidement parmi les populations, tant chez les Amérindiens que chez les Français de nos ancêtres. Et les récits de guérisons miraculeuses opérées par son intercession se sont multipliés. On peut les mettre en doute si on veut, mais on peut les lire aussi dans cet ouvrage du père Henri Béchard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'on peut se procurer à Kanawake. Ils ont une librairie, là, à côté de l'église, très belle église ancienne. J'ai des photos de ça, c'est magnifique. Et le tombeau de Kateri. Allez-y, dimanche matin, à 11h, il y a une célébration. Alors, son culte s'est propagé. 60 ans après sa mort, elle était universellement considérée comme la protectrice du Canada, la nouvelle étoile du Nouveau Monde. Et la bienheureuse Kateri Tekakwitha avait compris où se trouvait le véritable bonheur. Elle savait le prix de la pureté et du corps et de l'âme. Pureté qui permet d'être vraiment libre à l'égard des plaisirs même légitimes de ce monde, afin de quoi? De trouver en Dieu seul son véritable et plein épanouissement. C'est ça, simplement. C'est un conseil dans les évangiles, c'est pas un ordre, c'est un conseil. On peut le prendre, on peut ne pas le prendre. On ne pêche pas si on n'obéit pas à ce conseil, à moins d'y être clairement appelé. La volonté de Dieu était son seul guide. L'obéissance à ses commandements, c'était sa principale occupation. Et à ce titre, elle est, Kateri Tekakwitha, un modèle pour les personnes de notre siècle, personnes tourmentées par 1000 passions qui les tiraillent dans tous les sens, personnes qui ont l'impression d'être vides, sans espérance et sans paix. Eh bien, bienheureuse Kateri, aidez-nous tous à servir Dieu, à sauver notre âme, oui, à sauver notre âme. On veut aller au ciel, puis on veut être ici-bas des libérée comme vous l'avez été, sereine, joyeuse. Aidez-nous à contribuer au salut éternel de tous ceux qui nous sont chers, aux douces Kateri Tekakwitha.